Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
Alors c'est notre 10e émission, Didier, la 2e saison.
Ça fait vite.
Voilà, alors on va vous emmener découvrir la période Edo, une période prospère qui a donné lieu à un courant appelé le monde flottant, qui a influencé et inspiré le monde entier. C'est à cette époque que s'est développé l'art de l'estampe, avec des artistes comme Hokusai, Utamaro et Hiroshige, qui a inspiré notre artiste de la semaine dernière, Cécile Carré.
Tout à fait.
Voilà, un petit bonjour à Cécile.
Voilà.
Et toi Didier, on va un peu passer du coq à l'âne, mais c'est toujours intéressant de faire ça. Tu vas nous raconter ce que sont les superstitions en Asie. Voilà.
Alors, du coup, qu'est-ce que la période Edo, Corinne,
alors,
s'il te plaît ?
Oui, c'est important d'expliquer ce qu'est Edo. Oui. Edo, en japonais, signifie littéralement la porte de la rivière. Et cette rivière, en l'occurrence, c'est la rivière Sumida. On connaît quand même bien ce nom-là, la rivière Sumida. Mm-hmm. Et cette ville, eh bien, c'est l'actuelle Tokyo, qui veut dire capitale de l'Est. Donc, Edo, c'est Tokyo.
D'accord.
Voilà, et c'est aussi donc une période. Alors, avant de devenir Tokyo, Edo était une petite ville de pêcheurs et elle est devenue la capitale administrative du Japon lorsque le shogun Tokugawa, on pourrait dire pas le dernier shogun, mais c'est le dernier shogunat, qui a installé son gouvernement en 1603. Et c'est ainsi qu'a débuté la période Edo, allant de 1603 à 1868. Et je vous rappelle que 1868, c'est le début de la restauration Meiji du nom de l'empereur de l'époque.
Ok.
Voilà, et ça on en avait un petit peu parlé.
Déjà, ouais.
Début du nationalisme japonais avec la restauration du pouvoir impérial, c'était ça. Alors la période Edo est aussi appelée période Tokugawa, du nom du shogun. Et c'est une phase importante de l'histoire du Japon parce que ce fut une période de paix, c'était rare, et de prospérité économique et aussi une période d'isolationnisme, ce qui a permis aux Japonais, en s'isolant, de se restructurer et d'évoluer au travers d'une culture devenue très florissante.
Ah oui, alors quel était le contexte historique et politique durant ce shogunat de Tokugawa ?
En fait, il faut savoir qu'avant la période Edo, donc 1603, avant 1603, c'était les guerres civiles incessantes.
Ouais.
Et c'est donc le shogun Tokugawa, un puissant seigneur de guerre, qui va permettre d'unifier le Japon et donc d'installer la paix.
D'accord.
Et c'est presque une dynastie, parce que c'est transmis, c'est héréditaire, on se souvient, les titres de samouraï et de shogun.
Oui.
Donc la famille Tokugawa va gouverner le Japon pendant plus de 260 ans,
oui, tout de même.
Quasiment jusqu'au XXe siècle.
Ah oui.
Ben oui, 1868, on est presque au XXe siècle, on n'était pas loin du dernier samouraï.
Oui.
Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'empereur n'avait donc qu'un rôle symbolique et spirituel, et les Tokugawa avaient tous les pouvoirs.
Okay.
Donc il y avait quatre classes dans la société Edo, les samouraïs, l'élite, les paysans très respectés parce qu'ils produisaient le riz particulièrement, les artisans qui fabriquaient les objets qui servaient à la société, et il y avait les marchands qui étaient très mal considérés socialement parce qu'ils produisaient pas directement, mais ils étaient très riches, n'est-ce pas ? Et alors, cette période d'épanouissement interne a été due en grande partie à la richesse des marchands qui avaient accumulé et qui, en fait, ne savaient pas quoi faire de leur argent. Ils ont aidé les artistes.
D'accord.
Ils ont fait tout à fait du mécénat et contribué au développement culturel des grandes villes en incitant les classes aisées à se distraire de toutes les façons au travers du monde flottant, Didier.
Du monde flottant, mais qu'est-ce donc ce monde flottant, Corinne, s'il
alors,
te plaît ?
Oui, c'est vrai que c'est un nom
c'est
qui
étonnant.
Nous parle pas beaucoup.
Oui.
Et donc en japonais, c'est ukiyo. Et c'est un concept, en fait, un concept culturel et philosophique qui renvoie au plaisir terrestre et au divertissement pour s'évader du quotidien. Alors, ukiyo, c'est une combinaison de deux caractères, uki qui veut dire flottant, ou éphémère, et yo qui veut dire monde ou existence. Donc voilà, existence éphémère ou monde flottant.
Un monde flottant, monde éphémère. Quoi.
C'est
faut
ça.
L'entendre comme
et
ça.
Exactement. Okay. C'est devenu, en fait, une métaphore pour traduire le plaisir éphémère, le monde flottant.
Ah, très bien, c'est joli.
c'est joli. Alors pour nous occidentaux, bah, ce concept-là peut paraître un peu superficiel, mais pour les Japonais de l'époque, c'était une philosophie basée sur la prise de conscience de l'impermanence et de la nécessité de profiter de la vie, contrairement à la tradition confucéenne qui prônait une vie ordonnée et stricte.
Oui. D'accord.
Voilà, puis il faut savoir que le concept de l'impermanence est bouddhiste, c'est avoir le sens de la nature transitoire des choses, et ça c'est indispensable quand on est japonais, parce que quand on vit sur la plus grande faille terrestre,
oui.
et qu'on est soumis au tsunami,
bien
et
sûr.
On a bien vu ce que c'était que le tsunami au Japon, et les tremblements de terre, et bien voilà, il faut...
Forcément.
Il faut forcément apprécier le moment présent.
Oui, j'imagine bien. Alors du coup, tu m'as donné envie d'en savoir un peu plus. Il était constitué de quoi ce monde flottant ? Que pouvait-on y faire dans ce monde flottant ?
Alors il y avait les quartiers de plaisir, comme celui de Yoshiwara à Edo. C'était le cœur du monde flottant. C'était donc des zones où on pouvait échapper aux normes sociales. Et ben, on y trouvait dans ces zones les fameuses maisons de thé, où on pouvait se détendre.
Oulala, oui.
Discuter... Et puis, il y avait aussi le kabuki, le théâtre exubérant et populaire. Et puis, bien sûr, les maisons de courtisanes, avec des femmes capables de divertir par leur conversation, leur talent artistique et leur beauté.
Ah, d'accord.
Je dirais un peu comme les geishas, parce que les geishas étant, je dirais, le top du top de ce qu'on peut imaginer. Mm-hmm. Ce sont des trésors nationaux, ne l'oublions pas.
Mm-hmm.
Alors, c'est aussi à cette époque qu'est né l'art de l'haïku, le fameux poème de trois vers, qui nous fait toujours rêver en quelques mots.
Oui. Ah, ce sont donc tous ces éléments du monde flottant qui ont fait émerger l'art de l'estampe aussi, alors ?
Oui, tout à fait. C'est d'abord le kabuki et ses acteurs qui ont inspiré les grands artistes.
Ouais.
Parce que le théâtre, les acteurs étaient très expressifs, donc très faciles à croquer. Quelque part, par le dessin.
D'accord, oui.
C'était un théâtre très vivant, c'est un théâtre qui était très expressif. Voilà.
Okay.
Alors, donc l'art de l'estampe, l'ukiyo-e, c'est ce qu'il nous reste de plus concret de ce monde-là. C'est ça, c'est pour ça que c'est important, les estampes.
C'est un témoignage direct.
C'est un témoignage de la vie de l'époque.
Mm-hmm.
Bon, une petite pause musicale, Didier, petite.
Oui, je pense, oui.
Ah, ça s'appelle Lullaby of Takeda, Takeda no Komuryuta.
D'accord. Pas toi, mais moi je m'en lasse pas, c'est poétique.
C'est très
beau.
C'est
pas un haïku, mais c'est aussi poétique. J'ai trouvé ça très très joli.
C'est une chanson du folklore japonais, c'est une berceuse.
D'accord.
Alors c'était The Redbirds qui chantait, mais la chanson c'est la berceuse de Takeda.
Ok.
Takeda no Komuryuta.
Bon, alors là on est au taquet. Alors quelles sont, s'il te plaît, les origines de l'estampe et ses particularités, pardon, du coup.
Alors, l'estampe vient d'Asie, Didier, tu t'en doutais un petit peu quand même.
Oui.
Et bien sûr, la toute première estampe vient de Chine.
Ouais.
Et elle
est japonaise.
Plus tard.
C'est ça. Hein.
Alors, celle de Chine, elle a été réalisée au 7e siècle et grâce à une technique ancienne de gravure sur bois, la xylographie.
Ah oui.
Et tout à fait. C'était. Bah, c'est en fait même aujourd'hui. Hein, c'est la gravure sur bois. C'est quand même ce qu'il y a peut-être de plus simple. Et c'était un sutra, une illustration d'une prière bouddhiste. Et c'était Bouddha priant sous un arbre. Une photo quand même assez claire.
Enfin,
une
photo.
Une gravure. Très classique. Bon, il faut savoir que l'histoire de l'estampe est reliée à celle du livre en Asie, hein, et que le papier a été inventé en Chine au 1er siècle de notre ère. Faut pas l'oublier.
C'est vrai.
Et puis bien des siècles plus tard, donc pas mal de temps après, hein, je dirais peut-être 7 siècles, même beaucoup plus que ça, une dizaine de siècles, le Japon va s'approprier la technique. Alors, et au début de la période Edo, on était dans les premiers, on va dire, les premières estampes étaient en noir et blanc.
Ouais.
Et dès la seconde moitié du 18e siècle viendra la technique de la polychromie.
Ok.
Voilà.
D'accord. Bon, alors. Bon, j'ai peut-être une petite idée, bah, alors c'est sûr, comme tout le monde, j'en ai un en tête, mais quels sont les artistes d'estampes les plus connus de cette époque?
Alors oui, je vais parler d'Utamaro, d'Okusai, d'Hiroshige, Didier. Ouais. Alors le plus ancien, c'est Utamaro. On sait peu de choses de lui, mais il a révolutionné le genre. Hein.
Moi aussi, j'en sais peu, j'avoue.
Mais on n'a pas retrouvé grand-chose, mais par contre, on connaît ses gravures, hein, ses estampes, ses représentations de femmes, hein, de courtisanes, notamment, qui sont magnifiques, parce qu'il captait non seulement la beauté, mais aussi les émotions. Et il est surtout connu, en plus de ses portraits de femmes, par ses estampes consacrées à la nature. On peut dire qu'Utamaro, c'était un artiste naturaliste.
Ah, bien. Alors, bon, forcément, et Okusai. C'est celui qu'on connaît peut-être le plus en Occident, enfin en tout cas pour moi c'est le cas.
Oui, c'est ça, c'est l'artiste le plus célèbre et bien sûr son œuvre la plus emblématique, c'est la Grande Vague de Kanagawa.
La fameuse
Grande Vague.
Tout le monde l'a déjà vu.
Que tout le monde connaît, qui est iconique. Hein, cette Grande Vague, elle est tirée de la série des 36 vues du Mont Fuji. Et donc Okusai est né en 1760, donc ça se rapproche de nous. Il est mort à 88 ans en 1849.
Ouais.
Bon, alors à 14 ans, il a été envoyé comme apprenti dans un atelier de gravure. Il a eu plusieurs enfants, s'est marié deux fois. Et par contre, on sait beaucoup de choses de sa fille Oi, qui était aussi une artiste talentueuse, qui a travaillé beaucoup avec son père. Et c'est elle qui l'a accompagné jusqu'à sa fin de sa vie. Et elle a même eu un film qui lui a été dédié, La fille d'Okusai.
Oui.
Miss Okusai, le film s'appelle. Alors, il a vécu une vie de nomade. Il a déménagé depuis 90 fois Okusai. Il a utilisé beaucoup de pseudos. Et il a utilisé Okusai à partir de 1797 jusqu'à sa mort.
D'accord.
Alors, il s'est intéressé aux paysages, aux animaux, et surtout aux relations entre l'homme et la nature. Et il est aussi reconnu comme l'inventeur du manga moderne.
Oui, c'est ça. Oui,
il a dessiné une collection de 3000 croquis publiés en 15 volumes, qui est une véritable encyclopédie sur la vie de l'époque. Voilà, et il aurait dit sur son lit de mort, « Si seulement le ciel m'accordait juste 5 ans de plus, alors je serais devenu un vrai peintre.
» Eh ben.
Oui.
Alors, et Hiroshige, alors?
Hiroshige, lui, il est un peu plus jeune, du coup. Il va s'inspirer de Utamaro et de Okusai, et il va introduire une dimension plus poétique à Okusai, et il va faire surtout des représentations de scènes de la vie quotidienne, et son œuvre la plus connue, c'est les 53 stations du Tokaido. Et le Tokaido, faut savoir que c'est la route qu'il y a entre Tokyo et Kyoto.
D'accord.
Alors, elle existe toujours, mais elle a perdu beaucoup de son authenticité.
Je suppose.
Bien sûr. Et il y a aussi les 100 vues d'Edo. Et donc, lui aussi, il est devenu apprenti à 14 ans. Et il a commencé par créer des estampes de belles femmes et d'acteurs de kabuki, comme tout le monde, dirais, avant de se concentrer sur les paysages. Et il va privilégier les atmosphères calmes et mélancoliques. Et aussi, il va tenir compte des saisons. Et ça, c'est nouveau dans la représentation dans le monde des estampes.
Ah oui.
Et il va mourir assez jeune, hein, à 61 ans, probablement du choléra.
Ah.
Et il laisse derrière lui une collection, lui aussi, de 5000 estampes
et
d'innombrables dessins.
Oui, d'accord. Oui. Alors, quelle a été leur influence, en fait ?
Alors, tous les trois, donc Utamaro, Okusai, Hiroshige, ont influencé profondément l'or occidental à partir du 19e siècle. Oui. Van Gogh, Monet, ouais, Degas, Toulouse-Lautrec et bien d'autres s'en sont inspirés. Mmh. Et c'était le mouvement du japonisme, ouais, hein, avec autant de Monet, Degas et Van Gogh. Mmh. Et Van Gogh et Monet possédaient des centaines d'estampes et on connaît bien sûr le goût de Monet pour les jardins,
oui,
japonais.
Tout à fait. Hein.
Voilà, et on peut voir des estampes, par exemple, dans des œuvres de Van Gogh. Il les a représentées,
ah,
et
oui,
bien sûr dans celles de Monet aussi.
D'accord. Alors, du coup, qu'est devenu alors ce monde flottant ?
Ben, il a disparu, hein, à cause de l'occidentalisation,
oui,
et avec l'arrivée de l'ère Meiji en 1868. Hein, mmh. Et avec l'occidentalisation, il y a eu la modernisation et des changements sociaux. Et l'art de l'ukiyo-e, donc de l'estampe, a été évincé par la photo et l'imprimerie moderne,
et
Didier.
Bien sûr. Forcément.
Tu t'en doutes.
J'imagine.
Voilà. Bien. Mais l'influence du monde flottant perdure dans notre imaginaire, je dirais, dans celui du Japon aussi.
Ouais.
C'est très représentatif de la culture japonaise. Hein. Et puis l'art moderne contemporain occidental s'en est complètement emparé.
Je pense.
Voilà.
Ouais.
Alors pour en savoir plus, je vous recommande la lecture du manga Okusai, hein, de,
oui,
Ishinomori.
Oui.
Paru en 1987, et puis le film de Okusai de Hajime,
oui,
Hashimoto, qui est de 2020.
Très vieux, oui.
Hein, très, très joli film, hein, assez court, trop court à mon avis.
Mmh.
Et le film d'animation qui est sorti en 2015, Miss Okusai, de Kenichi Hara, un film qui raconte la vie d'Oi, donc la fille d'Okusai.
D'accord.
Bon, une toute petite pause musicale, Didier.
Oui.
Cécile Corbel, Arietti Song, c'est elle qui a composé la musique de ce film des studios Ghibli.
D'accord.
C'est joli aussi, Cécile Corbel.
Ah, c'est bien joli aussi. Oui.
Arietti Song.
Tout à fait.
Alors, y a-t-il beaucoup de superstitions en Asie, Didier ? Sont-elles très différentes des nôtres ? Raconte-nous ça.
Alors, on est curieux. Je vous raconte ça tout de suite.
Oui.
Effectivement, alors oui, oui. Fondamentalement, oui, comme en Occident. La liste est longue. Puis, je citerai les plus connues et les plus communes, en fait, à presque tous les pays, quoi. Mais avant, une petite définition. Les superstitions sont des croyances populaires fondées sur des présages, des pratiques ou des événements jugés porteurs de chance ou de malheur sans base scientifique.
Oui.
Alors, en Asie, les superstitions sont toujours profondément ancrées dans les cultures locales et influencent la vie quotidienne, les décisions personnelles et même les événements publics. Elle est souvent liée à l'histoire, à la religion, à la géographie et les légendes.
Alors, quelle est la superstition la plus partagée et la plus courante, Didier ?
Alors, la plus courante, c'est la tétraphobie.
Oui,
partout,
c'est drôle,
en Chine,
ça.
Oui, partout en Chine, en Corée, au Japon et au Vietnam, des précautions spécifiques sont prises pour éviter toute appellation du chiffre 4, qui est un nomophone du mot mort en chinois. On peut
oui,
le comprendre.
Oui, ça se prononce pareil.
Voilà. De même
ça
que...
s'écrit pas pareil, mais ça se prononce pareil.
Voilà, de même que les nombres avec un 4 aussi, ils sont associés. Là-bas, pas de numéro d'étage 4. Hein. Aussi bien dans les bâtiments publics, les hôtels, les appartements que les centres commerciaux, les hôpitaux, les parkings, pas de 4 dans certains complexes résidentiels ou dans les rues. Les pancartes indiquent 3A, 13A, 23A, etc.
Oui, à pour la éviter place le 4. De 4,
et voilà.
14, 24.
C'est ça. Ça va même jusqu'à éviter le numérotage d'étage de 40 à 49. On passe du 39e étage au 50e.
Mais oui, c'est perturbant pour nous,
c'est déstabilisant, ça. Oui, parce que si on se dit, mince, mais c'est quoi ce bazar dans l'ascenseur quand... Mais non, c'est bon à savoir quand on va là-bas. En général, le 4e étage est souvent marqué sous la lettre F, comme fort en anglais, signifiant 4 à la place du 4 ou dans les ascenseurs. Enfin, ouais. Et pour les noms de smartphones, pas de chiffre 4 non plus. Hein.
Ça, oui, il n'y a pas de smartphone
4. À un degré moins, pas d'étage 13, un chiffre qui évoque la mort.
Alors c'est vrai que la numérologie tient une place importante en Asie.
C'est ça.
Alors il y a des particularités.
Oui, alors les particularités selon les pays. Hein. Par exemple, en Chine, le chiffre 8 est extrêmement chanceux, car sa prononciation ressemble au mot prospérité ou richesse.
Ah oui,
vous imaginez bien. C'est pourquoi beaucoup de mariages se font à un 8, comme les signatures de contrats aussi importants. Et ne pas oublier que les Jeux Olympiques de Pékin en 2008
et oui.
ont même commencé le 8 août. À 8h08 et ils ont été créés. Enfin, ça a été une réussite, quoi.
Oui, c'est vrai.
Donc,
ça leur a porté
chance. Ça doit marcher. Hein.
Ça doit marcher.
Le chiffre 9 symbolise la longévité, l'éternité, car il est associé à l'empereur. Le chiffre 7 a des connotations ambivalentes, car il est associé au deuil, car on organise souvent des rites pour les défunts 7 jours après la mort. Alors en Corée,
d'accord.
Par contre, le 7 est positif, comme au Japon, car dans le bouddhisme, c'est le chiffre 7. Il a un lien avec les rituels funéraires et la réincarnation.
D'accord. Alors, y a-t-il des superstitions associées aux objets, Didier ?
Ah, bien sûr, comme en France, briser un miroir est vu comme une malchance.
D'accord.
Car ça symbolise la destruction de l'âme ou une perturbation dans le flux énergétique, je vais y arriver.
Oui, tu vas y
Mais
arriver.
Mais dans le Feng Shui, les miroirs sont utilisés pour refléter et repousser les mauvais esprits. C'est pour ça qu'on place souvent des miroirs face aux portes pour éviter que les mauvais esprits entrent dans la maison.
Hein.
Mais oui, il y a aussi les ciseaux. On les range pendant la période du Nouvel An pour ne pas couper les relations. On
D'accord.
ne se coupe pas les cheveux pendant cette période, car le mot « cheveux » se prononce comme « prospérité ». Alors, si on n'y touche pas... non, ça ne va pas. Donc, on n'y touche pas. Autre chose, on ne se coupe jamais les ongles la nuit. Non, on pense que cela pourrait attirer les mauvais esprits ou les rats qui pourraient alors utiliser les rognures d'ongles pour prendre l'apparence de la personne et voler son âme.
Waouh.
Oui, hein.
On approche d'Halloween, ça.
C'est ça, ça doit être ça. Et comme en Occident, on n'offre pas un d'objet tranchant. Alors ça, le coup du couteau,
vrai,
moi,
hein.
c'est pareil. Hein. Je
ah
demande
oui,
toujours
oui,
une
oui.
pièce. Hein.
Et oui, ben moi aussi.
Et c'est ça. Il y a
et
aussi.
Moi aussi. Comme quoi, on est tous.
C'est le même genre.
Touchés
aussi,
par ça.
Il y a une superstition très répandue en Corée et surprenante pour nous, la peur de la mort par ventilateur. Ah. Alors celle-là, elle m'a étonné.
Ça nous fait sourire.
Oui, un
peu.
Petit peu, quand même.
Mais bon, on a aussi des bêtises.
Mais c'est ça. On croit que dormir avec un ventilateur allumé dans une pièce fermée peut provoquer la mort par suffocation ou hypothermie. C'est pourquoi les ventilateurs coréens sont équipés d'une minuterie.
Ah, trop bien.
Eh ouais.
Et concernant les animaux, Didier ?
Ah, mais il y a beaucoup à dire aussi. Hein. Presque tous les animaux ont une symbolique.
Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Voilà, ouais. Symbole, c'est pas vraiment étonnant. Ouais. Par exemple, les chauves-souris sont considérées comme porteuses de chance en Chine, car le mot chauve-souris a une prononciation similaire à celle du bonheur. Ou
d'accord,
de chance.
Ouais,
c'est encore lié à la prononciation beaucoup.
Ouais,
hein.
Ouais.
Il y a aussi les corbeaux qui sont ambivalents. Au Japon, ils sont plutôt positifs.
Oui, on en avait parlé,
voilà,
tu te souviens.
Enfin, déjà.
C'est toi qu'on avait parlé, Didier.
Mais en
C'était
Corée,
bien.
Ils sont souvent associés à la mort et à la malchance.
Bah, comme un petit peu en Europe, du
oui,
coup.
Oui, c'est ça. Hein. Mmh. Chez nous, c'est plutôt ça. Voir ou entendre un corbeau croasser est considéré comme un présage de malheur imminent. Et toujours en Corée, les papillons, ils symbolisent la transformation. Normal, mais toucher un papillon pourrait causer des problèmes oculaires. Pour ce qui concerne les chats noirs, par contre, au Japon, ils portent bonheur aux femmes célibataires.
Ah.
Eh oui, mais en croiser un la nuit est un mauvais présage pour autant. Hein. Attention.
Oui, comme chez nous.
Voilà, j'en profite pour rappeler la légende du renard à neuf queues.
Ah, trop bien, la légende du renard à neuf queues.
C'est ça.
Et dans la vie quotidienne, Didier, est-ce que tu as des trucs à nous dire ?
Elle est aussi
marquée. On a
marqué,
encore un petit peu de temps.
Oui, par des croyances toujours bien vivantes, comme la pratique du feng shui pour construire sa maison,
oui, c'est
ou
vrai.
Sa tombe et installer les meubles. Cette pratique vise à harmoniser l'environnement avec les forces énergétiques, le yin et le yang.
On en avait parlé
aussi.
Allez.
Ben oui, c'est riche, l'Asiologie, il n'y a pas. Hein.
C'est très riche.
On ne dort jamais la tête au nord, car c'est associé à l'orientation du corps d'une personne décédée dans le bouddhisme.
Ben oui, c'est important, mais je pense qu'en France aussi.
On le fait aussi.
Ah, moi, j'ai toujours entendu ça aussi. On n'aime pas dormir la tête au nord. Hein.
Oui. Et il ne faut pas siffler la nuit, ni au Japon, ni en Corée, car on croit que cela peut attirer les serpents, les mauvais esprits ou les fantômes.
Wow.
La liste pourrait être très longue, car tout est symbole en Asie, on le sait. Je vais en citer quelques autres, comme certains objets qu'il ne faut pas offrir, comme des horloges ou des montres en Chine, car le mot horloge, encore une fois, se prononce de la même façon que fin ou mourir. Donc, offrir une horloge, c'est donc comme perçu, inviter à la mort.
Donc, oui, donc c'est,
voilà,
très
c'est un
malvenu.
Peu moyen quand même. On évite ça quand on va là-bas. On apporte autre chose. En Corée, ce sont les chaussures, car ça symbolise que la personne qui les reçoit pourrait s'éloigner.
Ah oui.
Alors si on offre des chaussures,
oui, à sa petite amie, c'est pas bon.
Non, c'est pas bon, non. Celui qui les reçoit doit donner une petite somme d'argent en retour pour les acheter, en fait.
Ah oui, bah comme les couteaux.
Symboliquement, voilà, c'est ça, pour annuler la malchance. En Corée, mais aussi un peu partout, on n'écrit jamais le nom d'une personne en rouge, car c'est la couleur qui est utilisée pour inscrire le nom des défunts sur les pierres tombales. Donc on imagine bien.
Ah oui, ça pourrait avoir du sens.
Ça pourrait porter malheur à la personne qui symbolise la mort prochaine, quoi. Donc, il s'agit d'une des superstitions les plus respectées en Corée.
Oui.
Alors, autre chose de très utile à essayer. Après un cauchemar, il faut se laver le visage à l'eau pour éliminer la mauvaise énergie et effacer la malchance associée au mauvais rêve.
Ah oui.
Et si on ne le fait pas, attention,
c'est bien,
les mauvais événements vécus en rêve pourrait se concrétiser. Merci. À l'heure d'Halloween, lavez-vous bien le visage, s'il
c'est
vous plaît.
C'est ça, oui. Didier, merci pour ce petit panorama.
C'était
des
très rigolo.
Oui, c'était rigolo. Dans d'une prochaine émission, tu nous parleras des amulettes et des talismans pour se protéger quand même.
Ouais,
hein.
Il va falloir qu'on trouve quelque chose.
Voilà, Asiologie, c'est fini les amis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter le samedi matin à 9h30 et bien sûr aussi en podcast sur radioalpa.com. Rendez-vous jeudi prochain à midi, toujours sur Radio Alpa, bien sûr. Salut.
Avec plaisir, on vous retrouve. Belle semaine
oui,
à vous.
Oui, on vous retrouve.
À très bientôt.
Salut.